Alors nous fêtons dans quelques mois le 400e anniversaire des apparitions de Sainte Anne, tout près d'ici, à Auray. Et c'est l'occasion pour nous d'approfondir notre vie chrétienne. Et cette année, notre évêque nous propose d'approfondir la plus grande des vertus, c'est-à-dire la charité. Cette charité se concrétise notamment par des œuvres de miséricorde, nourrir les affamés, consoler les affligés. Et parmi ces œuvres, parmi ces 14 œuvres, il y a celle-ci, aider quelqu'un à voir et à corriger ses péchés. Aider quelqu'un à voir et à corriger ses péchés. C'est ce que fait Saint Jean-Baptiste, dont nous venons d'entendre son action dans l'Évangile. Il parcourt la région du Jourdain, proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Il prépare ainsi la venue de Dieu. Les personnes de la Bible, Jean-Baptiste, Abraham et d'autres, sont des personnes réelles, qui sont pour nous des modèles. Alors pourquoi nous aussi, nous sommes appelés à voir et à corriger d'abord nos propres péchés, ensuite comment le faire, et ensuite comment le faire pour les autres. Dans ma paroisse d'origine, en Nord-Bretagne, un jour le curé prêchait sur l'humilité. Et il disait à tout le monde, mais qui peut se dire parfait? Et là, à son étonnement, quelqu'un a crié, moi! Alors je pense que la personne se trompait en fait. Parce qu'aucun de nous n'est parfait. Et nous avons tous besoin de voir et de corriger nos péchés. Alors pourquoi? D'abord par amour de Dieu. Car la charité, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur. Et le péché est une offense à Dieu. La deuxième raison, c'est pour un amour de nous-mêmes. Puisque le péché, en fait, est source de tristesse intérieure et est un obstacle pour notre bonheur éternel. Alors, comment le faire? Eh bien, nous avons quelque chose de génial. Cela s'appelle la conscience. La conscience, c'est un jugement de la raison au sujet de nos actes à faire ou déjà faits. Un jugement de la raison au sujet de nos actes à faire ou déjà faits pour voir si ces actes sont bons ou mauvais. La raison n'est pas aimée par le diable et par ceux qui l'inspirent. Ainsi Nietzsche disait que la conscience n'est pas aimée par le diable ni par ceux qui l'inspirent. La raison non plus d'ailleurs. Nietzsche disait que la conscience serait une terrible maladie. Et Hitler, je cite, voulait libérer l'homme de la chimère de la conscience. On a vu que le résultat n'était pas très satisfaisant. Nous-mêmes, notre conscience est quelque chose de génial. Et nous sommes appelés à ne pas l'endurcir, mais au contraire, à l'écouter. Parce que parfois, la personne humaine peut préférer quelque chose de secondaire par rapport au jugement de sa conscience. Par exemple, le vol, la gourmandise, la luxure. Et la personne humaine peut aller jusqu'à changer la droiture de sa conscience en voulant dire que le vol, la gourmandise, la luxure ne seraient pas des choses mauvaises en soi. L'Église, à la suite de la révélation, nous dit que la conscience n'est pas quelque chose qui invente la loi morale, mais au contraire, c'est quelque chose qui la scrute. La conscience n'est pas une lumière, mais elle est un œil. Elle est là pour chercher, scruter ce qui est bien et ce qui est discerné pour l'éviter ce qui est mauvais. Ce qui veut dire qu'il faut être assez présent à nous-mêmes pour écouter la voix de notre conscience. Si nous sommes toujours en train d'écouter de la musique, en permanence, toujours devant nos écrans, mais en permanence, en soi c'est pas mauvais, mais si c'est 100% de notre temps, eh bien notre conscience, nous ne pourrons pas l'entendre. Dans la parabole de l'enfant prodigue, le jeune homme, à un moment donné, va rentrer en lui-même et va pouvoir discerner ce qui est vraiment bien pour lui. Ainsi, en rentrant en nous-mêmes, en prenant conscience de cette voie intérieure, nous pouvons dire, mais voilà, quel est le bon chemin pour moi, voilà quelles sont les fautes que j'ai faites. Et pour nous, c'est une œuvre déjà de miséricorde, puisque cet exercice nous ouvre à la conversion et à la demande de pardon pour recevoir la grâce de Dieu qui nous aime. Donc la conscience est vraiment quelque chose de super en nous, que nous sommes appelés à exercer pour voir et corriger nos péchés avec la grâce de Dieu. Je signale toutefois qu'il existe une petite maladie de la conscience qu'on appelle le scrupule. Je vous donne un exemple. Je rencontre quelqu'un que je connais et je me trompe de prénom. La personne n'est pas contente et j'ai un sentiment de culpabilité et je me dis « Ah, je suis vraiment pas charitable ». Ça tourne dans mon imagination et je me dis « Mais je suis pas charitable ». Donc, j'irai en enfer. C'est terminé pour moi. En fait, ce qui a marché là, ce n'est pas tant le jugement de notre conscience, qui est un jugement de la raison, mais un sentiment de culpabilité. En fait, se tromper de prénom était vraiment involontaire. Ce n'était pas un manque de charité. Alors, si j'ai tendance à cette petite maladie de la conscience qu'on appelle le scrupule, c'est-à-dire une exagération de la culpabilité qui n'est pas un vrai jugement de la raison, eh bien, l'Église propose, du moins la tradition spirituelle propose un petit exercice. Quand nous sommes touchés par le scrupule, nous pouvons avoir tendance aussi à répéter une prière qu'on pense avoir mal faite. Par exemple, je dis le chapelet, et je pense avoir dit mal dit mon Je vous salue Marie, car j'étais distrait. Donc je vais reprendre Je vous salue Marie, et mes dizaines en fait sont des quinzaines ou des vingtaines. La tradition spirituelle dit qu'il ne faut pas faire cela. Pour guérir du scrupule, c'est vrai, on était distrait pendant la prière, on ne la reprend pas. On fera mieux la suivante. Et en faisant cela, eh bien, on va être plus libre par rapport à un sentiment de culpabilité qui n'est pas correct par rapport à un jugement juste de la raison. Je reviens à l'œuvre des miséricordes qui est de voir et de corriger ses péchés. Nous le faisons par amour de Dieu et par nous-mêmes, par amour de nous-mêmes. Et donc on comprend par là que aider quelqu'un à bien voir sa conscience est une œuvre d'amour pour lui. Bien sûr, nous n'allons pas le faire par esprit de vengeance. Si quelqu'un m'a offensé, on risquerait en fait d'agir par vengeance et non pas par charité. Nous allons le faire par charité. Ce qui veut dire d'abord de prier pour la personne, d'avoir le cœur en paix. Ensuite, dans un second temps, d'avoir le courage de le faire. Car parfois, il faut aller à contre-courant de l'ambiance générale pour faire remarquer à l'autre son péché. Je vais vous donner deux exemples. Il y a quelques années, un homme politique est venu me voir. Et il m'a dit, au début de ma carrière, j'ai fait quelque chose de pas correct. Et un chrétien que je connaissais, est venu me parler et m'a dit « Ce que tu as fait n'est pas correct. » Cet homme politique m'a dit, quand ce chrétien m'a fait cette remarque, par orgueil, cela m'a énervé. Mais quelques temps après, je me suis dit, il avait raison. Et cet homme politique m'a confié que cette remarque a été pour lui un fil conducteur durant toute sa carrière. Et ça l'a vraiment aidé. Voilà, aider quelqu'un à voir et à corriger ses péchés. Parfois, la réaction n'est pas très bonne. C'était le cas pour Saint Jean-Baptiste. Il a dit à Hérode, « Tu n'as pas le droit de prendre la femme de ton frère. » Ce qui a valu à Jean-Baptiste d'être décapité, martyr, mais ce qui lui a valu aussi le ciel. Et donc, quand nous faisons ça par charité, aider à voir, à corriger ses péchés, eh bien, il y a au moins cette récompense du ciel qui nous est promise. En conclusion, en cette année, parmi les œuvres de miséricorde, il y a cette belle œuvre d'aider à voir et à corriger d'abord nos propres péchés grâce à cet outil merveilleux qu'est la conscience, et un second, d'aider la conscience des autres à le faire par amour pour eux. Ça peut être pour nous un chemin vers Noël, pour accueillir la vie, la joie de Noël dans une conscience pure et pleine de joie de la présence de Dieu. Amen.